Cap Sport.
Cap Sport. Cap Sport.
Cap Sport.
Cap Sport.
67 000 participants, plus de 150 000 spectateurs. C'est le plus grand rendez-vous du sport de masse en Suisse. La fête fédérale de gymnastique bat son plein jusqu'à dimanche à Arreau. On s'y rend pour l'ambiance, mais aussi un peu pour la compétition. Et on verra si un événement de cette ampleur permet d'attirer de nouveaux adeptes. Rencontre ensuite avec Dimitri Aguerre. Ce Vaudois s'est lancé le défi de réaliser un Ironman dans chaque canton suisse. Après Neuchâtel l'an dernier, c'est au tour du Jura ce samedi d'accueillir ce défi un peu fou. Le but est de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Et cap sur Berne, en fin d'émission, la formule électrique s'arrête dans la capitale fédérale ce week-end. Par contre, la Suisse n'est pas à l'agenda du prochain championnat. On évoquera le développement de cette discipline et son attrait populaire.
Cap Sport, Mathieu Schaffner.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Sport. Quelques pirouettes pour lancer cette édition direction Arreau et la fête fédérale de gymnastique. Un événement de très grande ampleur, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 76e édition, 67 000 participants, 150 000 visiteurs. Tout cela depuis le 13 juin et jusqu'à ce dimanche. On va évoquer cette manifestation avec vous, Martine Jacob, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes la présidente du comité technique de l'Union romande de gymnastique. La fête fédérale, c'est vraiment l'événement qui met des étoiles plein les yeux ?
Oui, c'est l'événement qui met les étoiles plein les yeux. Et pour les Romands, c'est une grande occasion d'aller se mesurer, car ils font partie de cette élite de Suisse et ils ont des titres à défendre.
67 000 participants, on l'a dit tout à l'heure, hein, parmi eux. Et il y a Léa Jeanbrun, la jurassienne, était sur place à Arreau en fin de semaine passée. Troisième participation pour elle. Léa Jeanbrun qui nous raconte un peu son expérience.
C'est vraiment incroyable de vivre ça aux côtés de toutes les autres gymnastes. J'ai trouvé bien à Arreau parce que tout était concentré en une même place, contrairement à Bienne où la gymédance était... On devait prendre un train pour aller et c'était vécu différemment. Là, c'était vraiment au cœur de la fête, donc les émotions étaient d'autant plus fortes.
On sent vraiment qu'on arrive dans un événement exceptionnel.
Effectivement, oui. On arrive, il y a le grand Arreau en bois où tout le monde fait des photos durant toute la journée. Des gymnastes de partout en Suisse qui viennent se rejoindre ici. Toutes des langues aussi parlées différemment. C'est une grande rencontre gymnique.
Une grande rencontre, est-ce que du coup il y a beaucoup d'échanges avec les autres gymnastes, peut-être davantage que ce qu'on peut avoir tout au long de la saison ?
Oui, surtout avec les gymnastes de notre propre discipline, parce qu'on les croise aussi dans d'autres championnats. Mais après c'est clair que dans les bars, dans les restaurants, dans les petites cantines organisées, là on croise des gymnastes de toutes les disciplines. Et forcément, au fur et à mesure de la soirée, au fur et à mesure des jours, on apprend à connaître un peu d'autres personnes. Donc c'est aussi très intéressant ce genre de rencontre.
Une fête fédérale, on y va avant tout pour la compétition ?
Non, c'est plus pour l'ambiance de fête. C'est un peu des mini-jeux olympiques pour la gymnastique. Donc c'est un événement à vivre en tant que gymnaste. Et c'est plus la fête, l'ambiance, plutôt que la compétition. Après, c'est une concrétisation en plus. Mais la fête est principalement présente.
Vous avez obtenu une médaille d'or, un 10 à la fête fédérale. C'est un aboutissement, ça représente davantage qu'un championnat de Suisse, qu'un championnat traditionnel.
C'est un titre différent, mais vu que c'est tous les 6 ans et que je sais que maintenant mon 10 il va être présent pendant 6 ans dans les résultats, c'est quand même une concrétisation différente et d'autant plus forte qu'un championnat romand ou jurassien qui est plus petit.
La fête et l'ambiance plutôt que la compétition. Martine Jacob, vous confirmez ?
Oui, absolument. Et puis, pour les Romands, il y a un énorme enjeu cette année, puisque dans 6 ans, la fête se déroulera à Lausanne. Et je sais que toute l'équipe organisatrice est en observation le week-end passé déjà et ce week-end à nouveau. Et puis, la gymnastique sera à la fête également en 2024 à Genève, puisque ce sera là que tiendra la prochaine fête romande de gymnastique. Et comme Léa l'a très bien dit, ces gymnastes deviennent les ambassadeurs de la gymnastique. Ils portent très haut les couleurs de leur canton, mais aussi de la Suisse romande au sein de la Fédération Suisse de Gymnastique.
On présente cet événement un peu comme les Jeux Olympiques de la gymnastique suisse finalement. Est-ce que c'est pas un peu dommage que la compétition ce soit pas l'élément phare là au milieu ?
Alors, les titres à défendre sont l'élément phare. Mais ce qui est magnifique dans le terme de fête, c'est que, en plus, on retrouve cette ambiance fédératrice. Cela explique le fait qu'il y a près de 370 000 membres à la Fédération Suisse de Gymnastique, parce que en fait, il y a une ambiance, il y a une entente entre gymnastes. Elles parlent tous le même langage et on se comprend et chacun trouve justement sa dimension, l'offre de concours ou l'activité loisir qui va lui plaire et qu'il a envie de partager avec ses confrères de son canton, du canton voisin ou voire d'un autre canton.
Cette fête fédérale tous les 6 ans, c'est finalement, à bien vous comprendre, un peu le ciment de la gymnastique. Ça permet de ressouder les liens ?
Ça ressoude les liens, on se projette. Après une fête fédérale, on projette déjà la suivante, on apprend énormément des expériences, on voit ce qui plaît aussi en termes d'activités loisirs, on voit qu'il y a de plus en plus d'offres sympathiques, il y a le watering par exemple, qui est cet élément pris aux anneaux avec un amérissage dans l'eau, ce qui est tout à fait nouveau, qui se voit à Montreux. Et ça donne des idées aux gymnastes qui se disent, tiens, finalement, pourquoi pas, avec la gymnastique, je peux encore proposer quelque chose d'autre à essayer pour la prochaine édition dans 6 ans, à Lausanne, par exemple.
Voilà, une fête fédérale de gymnastique tous les 6 ans. Alors forcément, on en parle à l'avance aussi, on se motive, on la rêve déjà en société, finalement, avant d'y aller. Et puis, ça peut motiver tout au long de l'année, comme l'explique Léa Jeanbrun.
Quand on sait qu'on y participe, oui, on en parle beaucoup entre gymnastes aussi, des gymnastes d'autres sociétés. Après, pas tout le monde a la chance d'y participer parce que c'est quand même un sacré coût aussi pour les sociétés. Donc, on doit faire aussi un peu un tri, si je puis dire, des gymnastes qui peuvent y participer parce que aussi il y a les examens qui viennent en compte. Donc, c'est une période aussi un peu compliquée pour celles qui sont en études. Donc oui, on en parle, mais plus celles qui vont participer aux compétitions.
Et c'est quelque chose qui motive clairement quand on a peut-être parfois des petits coups de moins bien, quand on peine à se motiver à aller à l'entraînement, on se dit « allez, il y a la fête fédérale, il faut faire l'effort ».
Oui, c'est sûr, parce que souvent les compétitions arrivent plus en septembre, donc un peu avant l'été, on est un peu moins motivé des fois. Mais là, c'est sûr que ça booste encore plus et de se dire que c'est quand même une compétition suisse, donc c'est quand même un grand rendez-vous et ça motive.
Martine Jacquot, on l'a entendu, c'est très cher de participer à cette fête fédérale de gymnastique. C'est paradoxal là quand même, non ? Le plus gros événement de ce sport en Suisse et puis tout le monde qui ne peut pas y participer.
Alors en fait, les sociétés ont très bien compris que celles peuvent inscrire leur nom ou un individuel, celles peuvent inscrire son nom dans l'histoire de la gymnastique, comme on l'a dit, c'est un peu comme aux Jeux Olympiques. Si on décroche un titre, eh bien, on va marquer le temps de la gymnastique. Alors oui, ça a un coût à payer. On paye la qualité, on paye les infrastructures, on paye les juges, mais c'est très proportionné par rapport à la quantité d'offres. Il y a plus de 100 concours proposés et il y a des spectacles qui ont lieu le soir et qui permettent justement à cette gymnastique d'évoluer toujours plus et d'être vraiment un sport qui est très à la pointe, très en mire.
Et puis l'autre problématique soulevée par Léa Jeanbrun, c'est que cette période de fête, elle entre en collision finalement avec les examens universitaires notamment. On ne pourrait pas trouver de meilleure date, éviter un peu cette collision ?
Alors, il faut profiter pendant que les jeunes et les adultes ne sont pas encore partis en vacances, pendant également le moment où les installations sont à disposition. Et la fête fédérale, contrairement à la gymnastrada, se tient au mois de juin. La gymnastrada se tient au mois de juillet. Voilà, les championnats suisses, eux, sont souvent plus tard dans la saison. Et tout cela est rythmé et on retrouve cette période peut-être d'examen pour certains. Mais si on prend les plus jeunes qui étaient la semaine passée en concours, eux sont pour certains encore à l'école obligatoire, ils sont peut-être moins chargés. C'est vrai que ceux qui sont en bachelor, éventuellement à l'université, ils vont devoir conjuguer les compétitions, la fête fédérale avec les examens. Mais ils y arrivent et tout cela se fait dans un esprit d'intelligence.
Ouais, on le comprend bien, des calendriers très chargés. Martine Jacot, vous êtes la présidente du comité technique de l'Union romande de gymnastique. Cette fête fédérale, est-ce qu'elle permet d'attirer de nouveaux adeptes? Est-ce qu'on voit vraiment un phénomène d'inscription dans les semaines, dans les mois qui suivent une fête fédérale?
Absolument. On note toujours dans les sociétés une effervescence, beaucoup plus d'inscriptions, beaucoup plus de membres. Parce que, voilà, effectivement, elle a un renom, cette fête fédérale, on veut y participer. Surtout que 6 ans, c'est quand même assez long. Et voilà, un jeune qui va partir en études, il se dit, ben voilà, c'est la bonne année, je vais le faire parce qu'après, j'ai peut-être un métier qui se prépare ou je vais peut-être voyager, partir à l'étranger. Donc, on vise cette période pour participer peut-être à une seule et unique fête fédérale ou bien alors, comme beaucoup, ils aiment bien pouvoir aligner plusieurs fêtes fédérales dans leur calendrier. Donc, elle a vraiment son importance et elle a sa raison d'être.
Martine Jacot, merci d'avoir été en direct dans Cap Sport. Beau week-end à vous et puis surtout, bon vent à la gymnastique.
Merci beaucoup.
On rappelle que la fête fédérale, c'est jusqu'à dimanche à Haro. Prochaine édition, ce sera en 2025 du côté de Lausanne.
Jusqu'à 19h. Cap Sport.
Et on part à présent dans un défi un peu fou, voire carrément cinglé. 87 km 400 de natation, 4140 km de vélo et 970 km de course à pied. Alors si vous êtes hyper fort en calcul, vous aurez remarqué que ça correspond à 23 Ironman. C'est justement ce que veut réaliser Dimitri Egger, un Ironman par canton suisse. Après Neuchâtel l'an dernier, c'est au tour du Jura d'être visité par le Vaudois. La 11e étape, ce sera demain. Natation dans l'étang de la Gruère, puis départ pour un périple qui va l'emmener de Seignelégie à Porrentruy en passant par Les Bois, Saint-Ursanne, le Valterbi, Delémont, Réclair ou bien encore Courtemèche. Dimitri Egger, il court pour l'association Cause Toujours, une association qui vise à récolter des fonds en faveur de la Ligue Suisse contre le cancer, notamment parce que la maladie a emporté son papa. Son défi paraît dingue, complètement fou même, et pourtant Dimitri Egger ne se présente pas comme un sportif de très haut niveau.
Effectivement, comme ça, quand on dit les chiffres, on se dit « Ah, c'est surhumain, c'est énorme ». Mais c'est pas si compliqué que ça, surtout que moi, là, dans le projet, j'ai pas du tout une approche orientée performance, donc j'ai pas du tout envie d'aller vite, mais simplement d'effectuer la distance. Donc c'est dire que je suis en mode pépère et en allant doucement à faible intensité, ça rend la chose quand même beaucoup plus accessible. C'est vrai que c'est des gros efforts et puis c'est quand même peut-être recommandé de s'entraîner un petit peu pour pas se bousiller non plus, afin que ben, le corps soit préparé à un peu encaisser les efforts puis puisse récupérer assez rapidement pour les prochaines étapes. Parce que ben ouais, il n'y a pas qu'un seul canton, il y en a deux ou trois à enchaîner.
Et vous avez un gros été parce que vous en avez 4 en 2 mois.
Ouais, en moyenne, ça fait environ un toutes les 3 semaines. Que je me suis mis ce rythme-là. Le projet, à la base, j'ai démarré l'année passée. Et puis l'ambition, c'était de le faire sur une année. J'ai échoué, mais ce n'est pas dramatique en soi. Puis en laissant un peu plus d'espace entre chaque canton, ça laisse le temps de plus récupérer et puis de plus profiter aussi de toute l'aventure. Les tout bons, ils font ça en moins de 8 heures aujourd'hui. Donc c'est assez exceptionnel. C'est juste beaucoup trop vite. Donc moi, je mets à peu près le double. Mais je m'entraîne, je pense, moins du double qu'eux, donc elle est honorable, ma performance, disons.
Justement, c'est quoi la préparation avant d'entamer justement ce défi-là?
Ben, un peu de sport dans les 3 disciplines en question, donc un peu de natation, un peu de vélo.
Ça veut dire que c'est quotidien, c'est tous les jours?
Non, j'avoue que je ne suis pas un champion de l'entraînement, mais je suis un polysportif, j'aime pratiquer différents sports et j'essaie d'être actif toutes les semaines. Mais après, je n'ai pas suivi un entraînement spécifique pour le Dimitriathlon.
Il faut être un amoureux de la nature aussi pour se lancer à un défi comme celui-là, parce que j'imagine que votre plaisir, c'est de sillonner aussi des cantons, c'est de découvrir des paysages.
Pour chaque étape, l'objectif, c'est un peu d'aller à la découverte de nouvelles régions. La Suisse, c'est un magnifique pays et puis bah, c'est l'opportunité justement d'aller voir des coins où je ne suis encore jamais allé, qui vaillent le détour. Jura, je connais un petit peu. Pas trop, un peu la Saint-Martin.
Pas bon avant le triathlon, la Saint-Martin.
Non, c'est peut-être pas la meilleure préparation, mais heureusement, c'est pas la saison. On est un peu 6 mois trop tôt. Ouais, là, je me réjouis vraiment de découvrir de nouveaux coins dans le canton, avec déjà un ou deux amis jurassiens qui vont m'accompagner et puis qui vont sûrement pouvoir montrer les beautés de la région, quoi. Et puis s'il y a d'autres qui veulent venir, ils sont évidemment les bienvenus, quoi. On peut me contacter sur les réseaux sociaux, bien sûr le site internet.
C'est la 11e étape de votre périple, hein, sur les 26. Il y a des étapes plus dures que les autres. Le Jura, elle se situe où ?
Je dirais que l'étape jurassienne est dans la moyenne. Il y a des étapes plus difficiles, oui, parce que ça dépend un peu du parcours, des dénivelés à accomplir. Je pense que l'étape reine sera l'étape dans le canton d'Uri. Il n'y a pas beaucoup de plats là-bas. Enfin, il y a la vallée et puis des cols mythiques. Mmh. Et puis l'ambition, c'est d'aller faire ces cols mythiques à vélo. Donc, ce sera une grosse journée avec 6000 mètres de dénivelé. Et puis là, sur l'étape du Jura, pour comparer, on est à 2800. Donc, on est sur une étape standard. L'étape la plus plate pour l'instant, c'était le canton de Genève, où c'était plat. Mais sinon, il y a tout le temps un peu des petites montées et descentes. On est en Suisse, finalement. Ça fait partie du charme du pays.
On va être un peu chauvin en beauté du canton. Le Jura, il est pas mal placé ou...
Le Jura, je pense qu'il est pas mal. Ouais.
Il se défend.
Il se défend bien, ouais. Et puis, je suis vraiment content d'être ici. En plus, ce week-end, il paraît que c'est un week-end important avec les 40 ans de l'indépendance du Jura. Donc, à ma façon, je viens aussi fêter un peu le canton en venant... faire le Dimitriathlon pour cause toujours dans le canton.
Dimitri Aguerre au micro de Jérémy Pignard. Vous pouvez l'accompagner ce samedi dans son périple jurassien. Rendez-vous pour les Lefteaux dès 5h pour la partie de natation à l'étang de la Gruyère. Départ du vélo au même endroit à 7h. La course à pied, ce sera dès 16h30 à partir de Porrentruy. Vous pouvez aussi le suivre, Dimitri Aguerre, sur Facebook et Instagram.
Cap Sport jusqu'à 19h.
Et on vous emmène à présent à plus de 230 km/h dans les rues de Berne. Mais attention, tout ceci avec un moteur électrique. La Formule E fait escale dans la capitale fédérale ce samedi. C'est la 11e des 13 manches du championnat du monde de Formule électrique qui s'y tient. Une saison dominée pour l'heure par le français Jean-Éric Vergne. Une saison que vous suivez de très près, Jérôme Beuchat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour la chaîne de télévision MySports, commentateur notamment des épreuves de Formule E. La discipline vit sa 5e saison. Est-ce qu'on peut dire désormais qu'elle fait partie du paysage, qu'elle a trouvé son public ?
Ouais, alors je dirais que oui, parce que la Formule E fait maintenant partie du paysage du sport automobile. Les médias parlent de cette discipline, des sites internet lui sont consacrés. Il y a même des pages formulées qui ont été ajoutées aux sites de référence de sport automobile. Il y a aussi de grandes marques qui sont arrivés cette année en Formule E, comme Nissan, comme BMW, par exemple. L'année prochaine, on sait qu'il y a Mercedes et Porsche qui arriveront aussi. Donc, on voit qu'il y a un engouement, il y a une perspective d'avenir. Ensuite, est-ce que la Formule E a trouvé son public ? Je dirais aussi oui. On voit, il y a beaucoup de monde lors de chaque circuit, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Asie ou en Afrique du Nord. C'est vraiment plein. Après, c'est vrai qu'un Jean-Éric Vergne, le Français qui est champion du monde en titre, il n'a pas encore la même notoriété qu'un Lewis Hamilton qui est champion de Formule 1. Mais on voit aussi que la Formule E, elle a ses détracteurs, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui sont contre les courses en ville et puis surtout contre la fabrication des batteries qui alimentent justement ces Formule E.
Et ça se voit effectivement ce que vous dites en Suisse aussi, gros succès populaire que ce soit l'an dernier à Zurich, plus de 150 000 personnes, plus de 120 000 annoncés demain à Berne. On trouve des explications à cela en Suisse ?
Bon, alors en Suisse, je dirais qu'il y a deux choses, c'est gratuit et c'est nouveau. Par exemple, à Zurich et demain à Berne, les places debout, elles sont gratuites. Donc vous allez voir une course de Formule E comme vous allez voir une course de vélo. Vous mettez au bord du circuit et vous voyez passer les véhicules. Par contre, les places en tribune, donc les places assises, elles sont payantes. Et puis j'ai aussi l'impression que les gens, ils aiment venir voir la Formule E parce que vous pouvez être tout près du circuit, mais le bruit ne vous gêne pas puisque c'est Formule E, elles font quasiment pas de bruit. Et puis les courses sont sympas, beaucoup de suspense, il y a beaucoup de dépassements. Et puis un petit chiffre pour cette année, il y a eu 10 courses et il y a eu 8 vainqueurs différents. Donc c'est assez fou et il y a du suspense.
Alors on le comprend bien, gros engouement en Suisse, mais paradoxalement, la Suisse ne sera pas au calendrier du prochain championnat. Il n'y aura pas 10 prix en Suisse. Quelles sont les raisons ?
C'est tout simplement, moi je pense, un choix de la Fédération internationale de l'automobile. Je pense pas que c'est une punition pour la Suisse, parce que l'année passée pour Zurich, il y a eu plein de compliments sur l'épreuve. Là, on va voir demain à Berne, mais en tout cas, les premiers échos sont très très bons. Mais il y a beaucoup de tournus, comme par exemple l'année prochaine, il y a Londres qui va revenir au calendrier. Ça fera 3 ans que la capitale britannique n'a plus été au calendrier. Il y aura un nouveau E-Prix en Corée du Sud, ça sera à Séoul. Et puis il n'y a pas que la Suisse qui ne sera pas au calendrier l'année prochaine. Il y a aussi l'E-Prix de Marrakech au Maroc.
Et du coup, il y a le risque de ne pas pouvoir fidéliser un public finalement, de ne pas réussir à s'ancrer vraiment dans le paysage.
Ouais, alors ça c'est quelque chose. C'est vrai, par exemple en Formule 1, on a l'habitude de voir tout le temps les mêmes grands prix. Là en Formule 1, ça change un petit peu, mais moi je pense que la Formule 1, comme c'est le début, on est à la 5e saison maintenant, elle a envie de s'implanter pour être vue. Et puis je crois que quand vous pouvez aller faire un E-Prix en Chine, un E-Prix en Corée du Sud ou un E-Prix comme cette année pour la première fois en Arabie Saoudite, je pense que pour la FIA et la Formule 1, ça vaut la peine de quitter la Suisse, justement parce que le marché est quand même plus petit.
Et du côté du sport, Jérôme Beuchat, est-ce que ce championnat trouve sa voie? Parce que quand on regarde la liste des pilotes, Vergne, Buemi, Massa, Di Grassi, Wehrlein ou bien Van Dorn, on a l'impression d'avoir un peu un recyclage de la Formule 1.
Alors ça, c'est l'écho qu'on entend tout le temps. On a l'impression que la Formule 1, c'est la deuxième division de la Formule 1. Mais il faut savoir qu'en Formule 1, il n'y a que 20 pilotes. Et puis donc forcément, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Mais ce n'est pas forcément les meilleurs pilotes qui pilotent en Formule 1. C'est aussi beaucoup ceux qui arrivent à amener des sponsors et des immenses sommes d'argent. Pour faire une toute petite comparaison, le budget de Ferrari en Formule 1 pour une saison, donc avec le développement des voitures, les salaires des employés et tout, c'est à peu près 400 millions de francs suisses par an. Pour la Formule E, c'est 22 millions. Donc je vous laisse un petit peu imaginer la différence. Donc il faut beaucoup de sous en Formule 1. Donc on prend les pilotes qui arrivent avec des gros sponsors. Mais je peux vous dire qu'en Formule E, le pilotage, il est assez fou. Et ces pilotes-là n'ont rien à envier à ceux de la Formule 1.
Oui, il y a eu d'ailleurs beaucoup d'évolutions technologiques cette année avec ces monoplaces, des monoplaces qui vont plus vite, qui possèdent une puissance plus importante aussi. Est-ce que ça a changé le visage des courses?
Alors, ça a un petit peu changé. C'est vrai que les 4 premières saisons, on était avec des voitures qu'on appelait de la génération 1. Cette année, on est passé sur la génération 2. Le gros changement, c'est que maintenant, une voiture avec sa nouvelle batterie, elle peut faire toute une course. Encore l'année passée, les pilotes étaient obligés de changer de voiture au milieu de la course. Donc, les batteries se sont améliorées. Et puis, il y a aussi eu quelques petits aménagements, comme par exemple, les pilotes, deux fois pendant la course, ils peuvent emprunter un couloir spécial qui fait augmenter la puissance de leur moteur. Donc, ils peuvent aller plus vite que d'autres qui ne sont pas passés dans ce couloir. Donc, c'est vrai que c'est assez tactique. Et puis, on n'avait encore jamais vu 8 pilotes différents qui gagnent les 10 premières courses. Ces 8 pilotes, ils viennent de 7 écuries différentes. Donc ça, on ne voit pas, par exemple, en Formule 1. Et puis, il y a aussi eu 15 pilotes différents qui sont au moins montés une fois sur le podium. Donc, on voit qu'il y a une certaine homogénéité au sein de ces pilotes.
Oui, il y en a vraiment pour tout le monde. Effectivement, vous parlez des écuries, il y en aura de nouvelles la saison prochaine. Mercedes et Porsche qui vont faire leur arrivée dans la discipline. Qu'est-ce que ça peut lui apporter à cette Formule 1?
Ah bien, je pense que quand on a Mercedes et Porsche qui arrivent, de la visibilité, ça apporte. Et puis aussi, je pense, du crédit. Parce que quand vous avez Porsche et Mercedes qui viennent investir dans une épreuve, on se dit que l'épreuve, elle est pas de bas de gamme, parce que sinon, Mercedes et Porsche, ils n'auraient rien à faire là. Et puis de la visibilité, parce que ça sera le point d'interrogation. Est-ce que ces deux écuries seront compétitives? Est-ce que ça sera un flop total? Ça, évidemment, ça sera pour l'année prochaine, mais je pense que Mercedes et Porsche vont faire encore plus voir la Formule 1.
Jérôme Beuchat, merci d'avoir été en direct dans ce Cap Sport, journaliste sur la chaîne de télévision MySports, spécialiste de la Formule 1. Bon week-end et puis bonne course pour demain à Berne.
Merci Mathieu et merci pour l'invitation. Bon week-end.
Et chers auditeurs, vous serez d'ailleurs plongés dans l'ambiance de ce E-Prix suisse demain dans nos journaux de 12h15 et 18h. Et puis vous entendrez les pilotes suisses dimanche réagir à cette épreuve à domicile. D'ici là, je vous rappelle que tous les numéros de Cap Sport sont à retrouver en tout temps sur notre site internet. Très beau week-end.
Cap Sport.